L'Évangile pour le couple.
L'Évangile pour le couple.
Présenté par Alex et Maud Loriot-Prévost.
Bonjour à tous.
Bonjour à tous.
Voilà Maud, nous avons eu la joie pendant 4 émissions de suite d'approfondir au travers de grandes figures de l'écriture, l'Ancienne Alliance principalement, mais aussi la Nouvelle Alliance, les charismes de l'homme et de la femme, émergence des dons particuliers et singuliers qui sont faits aux hommes et aux femmes. Et voilà, et donc aujourd'hui, il y a deux figures qu'on a pas développé, quasiment pas développé. Nous voulons vraiment consacrer cette émission à Saint Jean-Baptiste et à Marie. Et donc, on va commencer, bien sûr, par Marie, la mère du Seigneur, avec, en rappelant cet évangile de Luc au chapitre 11, « Or il advint qu'il parlait qu'une femme éleva la voix du milieu de la foule. Heureuses les entrailles qui t'ont porté et les seins que tu as sucés. Mais Jésus dit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettre en pratique. »
Mais en fait, nous allons parler de ces deux figures parce que dans l'Église, ils sont considérés l'une et l'autre comme les deux archétypes, c'est-à-dire les deux modèles de l'homme et de la femme qui ont retrouvé la plénitude de leur masculinité et de leur féminité. Or, comme nous parlions justement, Alex, dans les précédentes émissions, de ce travail qui appartient à chaque génération d'hommes et de femmes, de sortir, si je puis dire, de la pesanteur de ce péché originel pour retrouver la plénitude de sa masculinité et de sa féminité. Nous allons suivre Marie et Jean-Baptiste qui vont être pour nous un peu des modèles de ce que l'homme et la femme peuvent aller comme accomplissement de leur féminité ou de leur masculinité.
Voilà, et donc on va en commencer par Marie, la mère du Seigneur, l'archétype de la femme, la nouvelle Ève, qui est vraiment cette union, je dirais, la quintessence de l'union du divin et de l'humain, au travers de cette femme, comme un premier être humain, vraiment divinisé par la grâce du Seigneur, et comme préservé par le péché, pas comme, mais préservé par le péché originel.
Voilà, la Vierge est donc la première qui a bénéficié, si je puis dire, de cette humanité restaurée. Et elle nous précède tous, elle traverse la mort. Alors, on sait que dans l'Église catholique, on appelle ça le mystère de l'Assomption de Marie. Dans l'Église orthodoxe orientale, c'est plutôt la Dormition. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la tradition relève que Marie n'est pas restée, le corps de Marie n'est pas resté dans son tombeau, et qu'elle est partie avec son corps dans la résurrection. Donc elle est la première, si je puis dire, femme qui a traversé la mort pour aller rejoindre le Christ, là où nous serons tous appelés à aller après notre mort.
Marie est vraiment a un lien très très particulier, bien sûr avec son fils, on le souligne énormément, mais peut-être pas assez le lien qu'elle a profondément avec l'Esprit Saint. Vraiment, c'est l'Esprit Saint qui l'a enveloppé et lui a permis de porter Jésus-Christ. Elle a cette intimité. Les pères parlent de Marie comme épouse de l'Esprit Saint. Elle est vraiment régénérée par l'Esprit du Seigneur qui l'a pris sous son ombre et qui l'habite toute sa vie. Elle a vraiment cet élan, cette force, cette puissance charismatique de celle qui est complètement saisie par le Seigneur, transportée par le Seigneur et qui lui permette de traverser justement toutes ces étapes, notamment les étapes douloureuses de sa vie.
Voilà, alors Marie est aussi celle qui revisite pour nous la maternité, puisque on disait que la malédiction avait fait qu'effectivement, à cause du péché, l'enfantement était une douleur pour la femme. Eh bien, avec le Christ que Marie porte en son sein, toute la maternité est comme sanctifiée et revisitée de l'intérieur. C'est la mère de tous les vivants. On se souvient qu'au pied de la croix, le Christ nous l'a confiée comme mère, en disant, voilà, fils, voici ta mère. Et donc, pour chacun d'entre nous, Marie est notre mère, c'est-à-dire qu'elle va enfanter en nous le Christ. Elle est mère de la vie divine en nos cœurs. Donc, elle est vraiment femme dans ce rôle d'enfantement, mais d'enfantement qui continue à nous concerner dans notre vie spirituelle.
Voilà, et c'est un enfantement qui n'est pas simplement passif, n'est pas simplement le réceptacle, mais elle conduit, elle nous aiguillonne à notre vocation. Et c'est tout le sens de justement de ce qui s'est passé à Cana. Rappelons-nous, Jésus ne voulait pas commencer son ministère, mais mon heure n'est pas venue. Et elle ne lui répond même pas, et elle parle au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Donc elle aiguillonne, elle est comme... même dans cet épisode, on peut presque dire qu'elle est davantage... saisi par les desseins du Seigneur, l'Esprit du Seigneur lui parle peut-être davantage que Jésus qui en disant mais il faut que tu commences ton ministère. Est-ce que simplement Jésus lui a dit c'est pas mon heure qui est venue parce que il n'était pas parce que c'était un peu tactique, il voulait tester en fait sa mère, mais comme si Marie mais conduit à sa vocation Jésus et l'aiguillonne, et donc elle est à nous dire, à nous pousser, à nous aiguillonner dans la vocation qui est la nôtre.
Marie est aussi celle qui va garder fidèlement toutes les choses dans son cœur. Donc c'est aussi notre mère, notre enseignante pour la prière. Elle sait méditer, prier, intercéder. Et combien de fois nous avons personnellement dans notre vie appris de Marie comment prier, comment intercéder. Et en particulier pour les femmes qui sont dans une vie quotidienne parfois très hachée, avec beaucoup de tâches à accomplir différentes. Marie reste dans cette unité intérieure qui est notre modèle. Et c'est aussi, évidemment, quelque chose de spécifique à Marie, c'est qu'elle est aussi la mère des priantes et des contemplatives et des vierges, puisqu'elle était vierge. Mais c'est vrai que c'est un charisme qui lui est vraiment, je dirais, qui est vraiment spécifique à Marie, d'être à la fois épouse et vierge. Et en ce sens, elle réunit toutes les vocations de femme.
Voilà, et puis elle est vraiment dans cette charisme d'enfantement. Rappelons-nous l'épisode de Jésus au temple, où vraiment elle avait été un peu bouleversée par, cette perte de Jésus qui avait disparu à ses yeux et aux yeux de Joseph, et ils l'ont cherché pendant 3 jours. Et puis Jésus lui dit, mais écoutez, vous ne savez pas que je dois être au service de mon Père. Et elle garde tout cela dans son cœur, et voilà, elle garde fidèlement, dit la parole, toutes ces choses dans son cœur. Donc elle porte, elle-même sans forcément les comprendre, elle porte dans son cœur, elle porte dans sa prière le ministère de son fils, le ministère de son enfant, et en cela le ministère de toute l'Église. Et c'est aussi vraiment l'invitation, ce charisme si féminin, de porter, de méditer, de repasser dans son cœur toute une série d'événements, d'intercéder. Il y a un ministère vraiment d'intercession que porte Marie, et qui défriche ce ministère si féminin de l'intercession.
Alors on parle aussi de Marie Nouvelle-Ève aussi comme celle qui, dans l'Apocalypse, a écrasé le serpent avec son talon. Donc nous le savons, Marie est aussi celle qui permet d'écraser le mal, puisqu'elle va donner le salut à l'humanité par son oui, par son acquiescement à la volonté divine. Et je trouve ça très beau, parce que justement c'est quelque part comme Ève a introduit le péché dans le monde, eh bien Marie a introduit le salut dans le monde. Et nous voyons là la réponse quelque part à ce drame de Ève, qui doit se réjouir de voir Marie, nouvelle Ève, enfanter le salut dans l'humanité.
Et puis Marie, c'est aussi, enfin, là on est en train par touches successives d'essayer d'aborder différents charismes et ministères de Marie. Et il y a aussi celui de dont parle Jean-Paul II, qui parle du lien de Marie et de la mission. Marie, étoile de l'évangélisation, qui est présente au matin de la Pentecôte avec les apôtres, qui n'est pas aux premières loges, mais qui est avec les apôtres pour vivre cette Pentecôte qui est tout le démarrage de l'évangélisation.
Marie est aussi la mère de l'église domestique, de notre petite église domestique, c'est-à-dire qu'elle s'est...
Ça, c'est un propos de Jean-Paul II qui insiste beaucoup.
Voilà, qui est celle qui nous apprend à faire de nos maisons des lieux de célébration du Seigneur. Et ça, c'est un charisme aussi très féminin, faire de la maison le lieu aussi de la louange, de la prière, de la reconnaissance à Dieu, la bénédiction des repas. Et c'est la maman qui va donner l'âme de la maison en faisant en sorte que tout tourne vers la beauté, vers la paix intérieure. Et Marie, en ce sens, nous apprend à être, des mères de l'église domestique et qui savent vivre dans le Seigneur notre vie quotidienne.
Voilà, et l'église étant vraiment habitée par l'Esprit Saint, Marie est vraiment un modèle de cette église, car toute sa vie, de la visitation jusqu'à la Pentecôte, en passant par tous les différents événements où elle s'est fait bousculer par X événements et par le Seigneur et par Dieu, elle est vraiment très très docile à l'Esprit Saint, et nous avons vraiment à entendre combien elle est docile à l'Esprit du Seigneur. Et elle est bien loin des images un peu sulpiciennes qu'on peut avoir de Marie, un peu mièvre, un peu fade, un peu fadasse, etc. Au contraire, c'est une femme forte. C'est une femme forte de l'Évangile. C'est peut-être la femme la plus forte de la parole de Dieu, qui est vraiment solide, qui a traversé les épreuves, qui a vu son fils supplicié comme il l'a été, et qui, à travers ça, est un roc. C'est vraiment une femme extraordinaire dans sa solidité.
Et puis qui a été capable justement à la croix de rester debout au nom de toute cette humanité qui va souffrir et qui va offrir sa vie à la suite de Christ, les innombrables martyrs. Elle est la mère des martyrs. Et en ce sens, je crois qu'elle a signé aussi de sa vie son engagement pour le Christ, et je trouve qu'elle est extraordinaire pour ça.
Voilà, on se retrouve dans un instant. Voilà, après avoir médité avec Marie pendant cette première partie comme l'archétype de la femme, nous allons parler maintenant de Jean-Baptiste. Maud, tu veux nous rapporter l'évangile de Matthieu au chapitre 11.
Qu'êtes-vous allé voir au désert, dit Jésus aux foules au sujet de Jean. Un roseau agité par le vent? Un homme aux vêtements délicats? Un prophète? Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète. Parmi les enfants des femmes, il n'en est pas de plus grand que Jean-Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui.
Voilà, oui. Parmi les enfants des hommes, il n'en est pas de plus grand que Jean-Baptiste. Et donc Jean-Baptiste est vraiment l'homme par excellence, le plus grand des hommes. Donc nous avons vraiment à méditer en tant qu'homme le ministère de Jean-Baptiste pour mieux comprendre ce que le Seigneur attend des hommes. Voilà. Et donc, nous avons à d'abord à souligner peut-être, Maud, combien Jean-Baptiste est vraiment le témoin de l'événement messianique.
Voilà, dès avant la naissance, rempli du Saint-Esprit dans le sein de sa mère, il a tressailli de joie. Donc, tout embryon...
Tressailli de joie à la rencontre du Messie qui était
dans le sein de Marie.
Dans le sein de Marie.
Donc il y a là inévitable, on peut reconnaître tout de suite qu'il est tellement, marqué par la présence de l'Esprit Saint, qu'il est d'une docilité et qu'il reconnaît son Sauveur tout embryon qu'il est. Donc c'est le premier, je crois que c'est la première fois dans l'Écriture et sans doute peut-être jusqu'à la fin des temps où on parle d'un nouveau-né, de la réaction de deux embryons.
Deux embryons qui tressaillent et qui dialoguent par mère interposée, par grâce au ministère de l'Esprit Saint. Voilà, cette sensibilité d'elle avant la naissance.
Voilà, et je pense qu'on peut s'appliquer à lui particulièrement les paroles du psaume, dès avant ma naissance, tu me connaissais, dès le sein de ma mère, tu m'avais choisi. Oui, effectivement, Jean-Baptiste est un être d'élection qui a été choisi pour préparer les chemins du Seigneur. Ça, c'est la deuxième étape que nous pourrons regarder ensemble, c'est justement cet appel de la vocation de Jean-Baptiste.
Voilà, qui est vraiment une voix qui crie dans le désert. Voilà, et on parlera de lui, Jésus parlera de lui comme un flambeau allumé et brillant dans le désert, dans la nuit. Hein, voilà, c'est celui qui va défricher dans un désert, qui va défricher, qui va rappeler la parole de Dieu, qui va avoir, il sera dit aussi à un autre moment, c'est depuis Jean-Baptiste, le royaume de Dieu appartient aux violents. Il est vraiment ce défricheur passionné par l'évangile et par le témoignage rendu au Christ.
Et ce qui est très beau, c'est que justement cet appel est tellement fort pour lui que plus rien ne compte que de répondre à l'appel de Dieu. Et donc, il va choisir la voie ascétique, la voie hérémétique, le désert. Il est habillé de peau de bête, il se nourrit de rien. Et en cela, il est aussi le père du monachisme, c'est-à-dire de tous ces hommes qui ont été tellement saisis par l'absolu de Dieu qu'ils ont tout quitté. Et c'est vrai que dans l'histoire, depuis Jésus-Christ, et même avant, il y a toujours eu ces personnalités d'hommes capables de se soustraire au monde par ce désir de l'absolu de Dieu et pour aller jusqu'au bout de leur quête.
Et puis Jean-Baptiste nous introduit, Jean l'évangéliste nous y introduira également, mais il nous introduit dans cette amitié avec Jésus et cette ami de l'époux. La parole est claire, elle parle de l'ami de l'époux. Voilà. Et il est vraiment, il accueille l'époux, il accompagne l'époux pour y placer dans sa main la main de l'épouse. Il est dit dans la parole au chapitre 3 de Jean, il se réjouit à la voix de l'époux et sa joie est parfaite. Voilà, c'est vraiment celui qui se dilate, qui dilate sa joie, qui dilate son cœur à la venue du Messie. Car il se rend compte combien la venue du Messie, ce sont les épousailles de Dieu avec l'humanité, et il y met toute sa joie, toute sa joie.
Voilà, dans cette exultation aussi, elle a été traversée par des grandes douleurs. Il ne faut pas oublier que Jean-Baptiste, il a quand même missionné pendant des jours et des jours pour prêcher un baptême de repentir et pour préparer le chemin du Christ. Il n'a pas eu toujours beaucoup de succès. Des foules venaient nombreuses, mais il y a des moments où il a été aussi rejeté. Et puis, il a été tellement rejeté qu'il a fini en prison parce qu'il dérangeait l'ordre public, et notamment Hérode, et on reviendra sur son martyr, Alex, à la fin de ce passage. Mais en tout cas, il est passé par cette étape de la prison où, à l'intérieur même de la prison, il a été saisi par...
Même par le doute. Et ça, souvent, doute, voilà. souvent, on ne le souligne pas. On voit que sa foi. Mais à un moment, il a été un doute, puisqu'il envoie ses disciples demander à Jésus, mais es-tu celui qui doit venir? Es-tu celui qui doit venir ? Donc, dans l'épreuve de Jean-Baptiste, n'était pas simplement l'emprisonnement, mais à un moment, ça a été, mais est-ce que finalement c'est celui ? Même s'il l'a baptisé, à un moment, il l'a reconnu comme le Fils de Dieu et le Messie, mais à un moment, il a été saisi par le doute. Et donc, c'est rassurant aussi pour nous, même Jean-Baptiste, le plus grand des enfants des hommes, comme dit Jésus, a été saisi par ce doute.
Voilà, et puis quelque chose à noter aussi qui me semble très important dans la vie spirituelle, et en particulier pour les hommes, c'est que ce ministère de Jean s'efface devant celui de Jésus. Et il y a cette fameuse phrase, il faut qu'il croisse et que je diminue.
C'est le Christ.
C'est le Christ, voilà, c'est-à-dire que Jean-Baptiste annonce, mais il n'est pas le Messie, et il s'efface devant le Messie. Et en ce sens-là, il replace les hommes devant leur responsabilité d'amener les personnes au Christ, leurs enfants, d'amener la création vers une réalisation belle, etc. Mais de s'effacer devant le Créateur, de s'effacer devant Dieu. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles Jean-Baptiste est fêté le 24 juin, parce que c'est le jour ou la nuit de l'année la plus courte. Donc c'est à ce moment-là que s'inverse la proportion et que diminue Jean-Baptiste et que Jésus va pouvoir se lever. Voilà, donc il est le signe du renversement. Je suis capable de m'effacer complètement devant le Christ et je me réjouis que le Christ arrive.
Il y a un point qui nous est particulièrement auquel on est particulièrement sensible dans cette émission L'Évangile pour le couple, c'est que Saint Jean-Baptiste est le prophète et le martyr de l'amour conjugal, et ce à double titre.
Voilà, alors d'abord, il a été jusqu'à témoigner publiquement qu'il n'était pas du tout normal que Hérode ait pris la femme de son frère, qui s'appelait Hérodiade, et donc il a été professer, lutter contre les puissants, quelle que soit leur place, il avait la capacité de dénoncer le mal, et en particulier l'adultère.
Voilà. Et en plus, il est décapité à cause de la haine d'Hérodiade pour lui, à cause de ce qu'il avait dit, qu'il n'arrêtait pas de dire, et en plus de la convoitise passionnelle d'Hérode pour sa fille, même pas pour sa femme. Donc il a tellement désiré la fille d'Hérodiade lorsqu'elle a dansé, il le fascina, il la fascina tellement par sa sensualité et sa beauté qu'il en perdit la tête jusqu'à dire bah, « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai ». Et c'est là, sous le conseil perfide d'Hérodiade, que sa fille demanda à Hérode la tête de Jean-Baptiste. Et le pauvre Hérode était pris par sa promesse devant ses convives. Et donc, il lui a fait amener la tête de Saint Jean-Baptiste. Voilà. Et donc, Saint Jean-Baptiste est finalement le martyr du mariage, car il a rappelé la loi du mariage qui existe depuis les origines. Il a été fruit, je dirais, de la passion, du péché profond, passionnel, concupiscent, la sensualité, face à la sensualité de la fille d'Hérodiade.
Absolument. Donc c'est un modèle aussi pour les hommes, parce que il a eu le courage, au risque de sa vie, de dire la vérité. Et je crois que c'est aussi une grâce masculine que nous retrouvons chez Jean. C'est cette force de la vérité, ce courage de la vérité. Et dans l'histoire, nous connaissons tous des exemples d'hommes qui ont comme ça préféré perdre leur vie plutôt que de renoncer à la vérité. Et cette recherche de la vérité est aussi typiquement masculine et typiquement indiquée par Jean.
Voilà. Et puis le ministère de Jean-Baptiste aussi est un ministère également qui est un modèle pour les parents. Car finalement, Jean-Baptiste a essayé de montrer le Fils de Dieu et de s'effacer devant le Fils de Dieu pour que le ministère du Fils de Dieu puisse grandir. Il en va de même pour les parents qui doivent vis-à-vis des enfants montrer le Fils des dieux et s'effacer. Ils doivent vis-à-vis des enfants, essayer de rendre droit les chemins du Seigneur, comme Jean-Baptiste. Ils doivent désigner, voici l'agneau de Dieu, en montrant le Christ. C'est eux les premiers témoins du Christ auprès des enfants. Moi j'ai vu et je témoigne que celui-ci, le Christ, est l'élu de Dieu. Et toi, mon enfant, mon fils, ma fille, tu dois entendre et suivre le Seigneur. Tu m'as suivi pendant un temps, parce que je suis ton père, je suis ta mère, mais maintenant, vas-y, suis le Christ, c'est lui ton modèle.
Voilà, et Jean et Marie sont tous les deux rassemblés autour de cette vision, si je peux dire, eucharistique du Christ, puisqu'ils désignent le Christ comme l'agneau de Dieu, et il l'indique. C'est pour ça qu'on le voit souvent sur les icônes avec le doigt levé. Il montre l'agneau de Dieu, et son emblème, c'est l'agneau. L'agneau avec un étendard. Alors que Marie, elle, en appelant Jésus à faire ce miracle du vin à Cana, au début de du ministère de Jésus, complète cette vision de Jean-Baptiste par le sang, par l'amour, par la grâce qui va être donnée par le Christ. Donc l'un et l'autre se complètent pour montrer aux hommes quelle est la grâce du Christ qui vient en notre monde.
Voilà, vraiment nous prions le Seigneur pour chacun de vous, que vous soyez vraiment éclairés dans vos vies d'époux et d'épouses, de parents, par ces ministères tellement exceptionnels de Marie, la Mère du Seigneur, et de Saint Jean-Baptiste. Qu'ils viennent, nous les prions pour qu'ils viennent intercéder pour chacun de nous, chacun de vous, et que vous soyez comblés par l'amour du Seigneur et par tous ses dons. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
The extravagant love of God. The intimate friendship.